Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce débat, cette émission d'Arrêt sur image d'une heure qui sera consacrée, une fois n'est pas coutume pour nous, à Arrêt sur image, au décryptage des relations entre les médias, les journalistes et la Macronie à l'issue des élections législatives anticipées. Je ne dis une fois n'est pas coutume parce que s'il y a des abonnés à Arrêt sur image ici, c'est quelque chose qu'on fait globalement tout au long de l'année parce que malheureusement il y a du pain sur la planche sur ce sujet. Merci beaucoup pour l'eau. La déférence médiatique vis-à-vis d'Emmanuel Macron et la diabolisation de la gauche, comme vous le savez, ne sont pas nouvelles. Mais il semble qu'avec la dernière séquence politique, qui ne s'est d'ailleurs pas achevée, eh bien, elle ait atteint une nouvelle étape après donc ces élections. Alors pourquoi, justement? Quels en sont les mécanismes? Quels rapports de force sont à l'œuvre? Et si trahison des médias, puisque c'est l'intitulé de notre échange aujourd'hui, de quoi est-elle le nom? Voilà, pour répondre à toutes ces questions sur oui ou non, y a-t-il eu une trahison des médias à l'issue des élections législatives anticipées? Je reçois donc deux invités avec moi. Tout d'abord, Sylvain Bourmeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur et directeur du quotidien d'idées en ligne AOC, AOC pour Analyse Opinion Critique, qui publie en ligne des textes d'universitaires afin de structurer le débat d'idées et le débat public en règle générale. Et puis vous êtes aussi le producteur et l'animateur d'une émission sur France Culture diffusée tous les jeudis de 20h à 21h et qui s'appelle La Suite dans les idées. Merci de votre présence. Et puis, à ma droite, Marc Endeveld, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous aussi, journaliste, spécialiste enquête à l'hebdomadaire Marianne, et vous menez des investigations depuis peut-être, je crois, une dizaine d'années sur le personnage d'Emmanuel Macron, auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages. L'ambigu Monsieur Macron, c'était déjà en 2015. Le grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron en 2019. Et le dernier qui a fait beaucoup écho, l'emprise, le mot est fort, la France sous influence, publié en 2022 aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.
Merci.
De votre présence. Alors la première question, elle est toute simple à nos deux invités. Peut-on parler de trahison? Et si oui, laquelle? La trahison des médias lors de cette dernière séquence politique. Sylvain Bourmont.
Je ne suis pas sûr de vouloir employer ce mot de trahison. Je
parle bien vraiment.
Comme
sur
ça,
le micro,
ça va. Ouais. Je préférerais en fait parler de défaillance. De défaillance, non pas forcément des médias, mais de défaillance du journalisme politique, entendu au sens large. C'est pas quelque chose qui est pour moi propre à la séquence qui s'est ouverte avec la dissolution et dans laquelle, comme tu le précisais, nous sommes toujours. C'est quelque chose de continu que vous traitez à Arrêt sur image, qui moi, comme citoyen, comme journaliste, m'interroge depuis de très très longues années. Pourquoi le journalisme politique dans ce pays dysfonctionne à ce point? Simplement, ce qu'il y a de particulièrement intéressant et préoccupant dans la séquence actuelle, c'est qu'au fond, elle, compte tenu du caractère inédit d'un point de vue institutionnel et des incertitudes qui pèsent sur la séquence, cela nous permet, au fond, de manière presque expérimentale, de mieux voir un certain nombre de dérives qui ne sont pas nouvelles, qui ne sont pas propres à cette séquence, mais qui sont mises en lumière en quelque sorte par ce moment dans lequel il paraît plus difficile encore que d'habitude de simplement s'accorder sur ce que sont les faits, sur la qualification de la réalité politique dans laquelle nous sommes plongés. Et pas seulement que nous sommes plongés, mais dans la réalité politique qui se fabrique au jour le jour dans les interactions entre différents acteurs sociaux, évidemment des acteurs politiques au premier rang, mais aussi les commentateurs de ces interactions qui font partie du jeu, en quelque sorte. Et juste pour terminer cette première introduction, il y a cette dimension de réflexivité qui fait défaut à la profession journalistique, elle ressort de manière encore plus saillante. J'ai toujours le sentiment étrange de constater que les journalistes politiques font leur métier sans jamais se poser la question des conséquences de la manière dont ils font leur métier. Or, dans une situation telle que celle que nous traversons depuis le début du mois de juillet, ces conséquences, ces effets produits par le journalisme politique sont encore plus puissants. Et ça confère, de ce point de vue, à mon sens, une responsabilité aux journalistes politiques qu'ils ne perçoivent pas comme tels.
On y reviendra évidemment sur l'impact, sur les conséquences et sur ces fameuses défaillances que vous évoquez. Même question, Marc. Y a-t-il trahison des médias ?
Il y a trahison dans un sens, c'est que les médias français, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, médias français, c'est très global, mais les médias français ont une tradition qui n'est pas celle du contre-pouvoir par rapport à l'Élysée et au pouvoir présidentiel dans le cadre de la Ve République. Donc globalement, au-delà même du journalisme politique décrit par Sylvain, il y a une logique dans toutes les rédactions en France de légitimisme à l'égard du pouvoir présidentiel. Et résultat, ça a des conséquences sur ce que j'appellerais une surprudence dans le traitement du président de la République, de son entourage et de son pouvoir. Et pour reprendre un terme que tu as utilisé, Sylvain, pour qualifier les faits, notamment quand on est face, parce que là on est face à un abus de pouvoir de la part du président de la République au regard de la manière dont il utilise la constitution de la Ve République depuis le résultat des législatives, mais ce n'est pas nouveau non plus, parce que depuis la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron, depuis 2017, on a été face à de nombreux abus de pouvoir. Je peux penser à la question des libertés publiques, notamment face aux mouvements sociaux, à la répression des Gilets jaunes. Je pourrais également évoquer la loi sur le séparatisme en 2020. À chacun de ces événements-là, la presse politique, les journalistes politiques plus précisément, qui ont donc normalement ont spécialité de suivre le pouvoir politique, n'ont pas qualifié ces événements d'abus de pouvoir, alors qu'on en était totalement, on était face totalement à des abus de pouvoir du président de la
et
République.
Et c'est toujours pas d'ailleurs l'expression qui est utilisée aujourd'hui.
Non, parce que si on emploie cette expression-là aujourd'hui, alors on reviendra dans la discussion,
absolument.
Mais quelqu'un qui est dans le jeu politique également, en fait, une profession qui est dans le jeu politique également, mais qui est un peu dans l'ombre, entre guillemets, c'est les communicants politiques, c'est les sondeurs également, que la population voit un peu plus sur les plateaux télé, mais dans les deux cas, ils coproduisent aujourd'hui l'événement politique et son traitement par les rédactions et les services politiques des différents médias. Et c'est aussi un acteur dont il faudra parler dans la suite de la discussion. Juste un point supplémentaire. Quand je disais les médias français n'ont pas de culture de contre-pouvoir, là, c'est un propos global. Bien évidemment, il y a des traditions différentes. On ne peut pas comparer Mediapart avec TF1, ça n'a rien à voir. Et Mediapart s'inscrit justement dans une logique d'enquête journalistique et donc davantage dans le contre-pouvoir à l'égard notamment du président de la République. Mais on en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Sylvain, quand on fait des comparaisons internationales avec le journalisme dans d'autres pays, y compris dans des pays pas forcément où la gauche performe non plus, hein, on peut parler de la Grande-Bretagne, dans la tradition du journalisme anglo-américain...
Colle bien ton micro.
Dans la tradition du journalisme anglo-américain, en tout cas dans des pays libéraux sur le plan politique, la conception du journalisme est plus dans celle du contre-pouvoir que de l'accompagnement du pouvoir. Je citerai une remarque d'un ancien directeur de la rédaction du Guardian, Alan Rusbridger, qui disait il y a quelques années... Nous avons la spécificité au Guardian d'avoir été fondé à Manchester et de ne pas côtoyer originellement l'establishment médiatique londonien. C'était ses termes. Et il expliquait qu'également, avec sa forme juridique, c'est-à-dire la propriété du Guardian, c'est une fondation, ça lui permettait de développer un journalisme d'enquête et un journalisme offensif. Je crois qu'il y a un point en France qu'on évoque rarement dans la critique des médias y compris, c'est que les médias français comme je l'ai dit, ont un légitimisme par rapport au pouvoir présidentiel, mais ils ont un suivisme par rapport à au système politique général en France, qui est un système politique hyper centralisé, un pays hyper centralisé sur Paris, et que ça a des conséquences directes dans le suivisme des journalistes politiques que tu décrivais tout à l'heure.
Oui, on y reviendra parce que ça me semble extrêmement important sur la manière de faire du journalisme politique. C'est ce que vous avez commencé à dire, Sylvain. Mais peut-être une question, vous parliez tout à l'heure de continuum, que finalement, c'est pas nouveau. Mais quand même, on a quand même l'impression, et je ne sais pas si vous partagez cette impression-là, mais qu'on a quand même franchi une nouvelle étape. Si oui, laquelle ?
En fait, je ne suis pas sûr qu'on ait franchi une nouvelle étape quant à la façon de faire du journalisme politique. Ce qui peut donner ce sentiment, à mon sens, c'est que la situation politique, elle, est différente. Elle n'est pas routinière. On est dans un moment que précisément il faut qualifier. Et on peut pas, on est tous un peu interloqués. Or, les journalistes politiques ont continué à faire comme d'habitude. Ils ne se sont pas posés davantage de questions que ça sur ce qu'on attendait d'eux, à savoir dire ce qu'il en est de ce qui est à propos de cette situation. Je voudrais prendre un exemple très simple. Il date d'hier ou d'avant-hier. Enfin d'hier, l'édition du Parisien d'hier. Le Parisien fait un entretien avec le chef de l'État. Le chef de l'État annonce dans le Parisien qu'il veut créer une fête du sport le 14 septembre et créer un ordre de décoration pour les sportifs. Il dit, je le cite dans cet entretien, « Je veux que le 14 septembre devienne la fête du sport ». J'ai pris connaissance de cet entretien par un flash à la radio la veille de donc vendredi soir. Il était annoncé que Emmanuel Macron avait décidé la création d'une fête du sport. C'est une décision présidentielle. Ce flash radio s'appuyait sur une dépêche de l'agence France Presse qui reprenait les éléments principaux de l'entretien accordé aux Parisiens, dépêche qu'on a retrouvée dans toute la presse française. Vous en avez la version AFP avec Le Monde, par exemple, sur le site du Monde, mais vous pouvez la trouver partout. Et cette dépêche relaye cette prise de décision du président de la République. On a un gros problème, là. Le président de la République est dans une situation, aujourd'hui, dans laquelle la majorité présidentielle qui l'a réélue en 2022 ne coïncide plus avec une majorité parlementaire. C'est ce qui fait qu'on n'a pas eu de gouvernement pendant un certain temps, qu'il a fini par nommer Michel Barnier, qui n'est pas un membre du parti macroniste. Bref, on est retombé dans un fonctionnement de la Ve République, j'allais dire, du même type que sous la cohabitation, à ceci près qu'il n'y a pas de fait majoritaire. Il n'y a non seulement pas de concordance des majorités entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, mais il n'y a même pas de majorité, en fait, au Parlement. Et donc, on est dans cette incertitude institutionnelle. Les juristes peuvent avoir des débats entre eux, mais les juristes ne sont pas les acteurs sociaux à tenter de qualifier cette situation. Et c'est là que le rôle des médias, comme quatrième pouvoir, est déterminant dans ce type de situation. Or, accepter de relayer ce qui est présenté comme une décision du président de la République, alors que rien, aucun article de la Constitution n'autorise le président de la République à prendre ce type de décision dans la situation, enfin, jamais en général, d'habitude, les présidents ont pris ce droit du fait d'une lecture présidentialiste de la Constitution qui est rendue possible par une situation politique. Cette situation politique aujourd'hui ne prévaut plus. Et donc en fait, la seule base juridique sur laquelle pourrait s'appuyer Emmanuel Macron comme président de la République pour prendre ce type de décision aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que l'article 16, c'est-à-dire les pleins pouvoirs. On imagine qu'il ne va pas décréter les pleins pouvoirs pour décider d'une fête du sport. Donc il y a, enfin je veux dire, c'est ahurissant de voir que les médias ne remplissent pas leur rôle simplement de commentateur, de qualificateur de cette situation en disant le président de la République raconte n'importe quoi. Alors, en l'espèce. N'importe quoi.
Sur ce constat et sur la manière de qualifier les faits, tu as cité donc Le Parisien. Il en est un autre journal qui a un peu défrayé la chronique, dirons-nous, cet été sur sa manière justement de rapporter l'actualité politique, c'est Le Monde. Avec des critiques assez acerbes sur sa manière de mettre ou non un constat sur ce qui se passe devant nous. Comment tu le juges, toi, Marc, le travail du journalisme politique version Le Monde, qui est quand même toujours, dit-on, le journal de référence ?
Alors justement, Le Monde est en crise d'une certaine manière par rapport au journal de référence, parce que par rapport aux nouveaux médias, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport même aux grosses machines que sont Bolloré, justement, Le Monde est quand même dans une situation où est-il encore le journal de référence aujourd'hui ? Bon, ça serait encore une question en soi. Par rapport aux critiques à l'égard du Monde, Sylvain, à plusieurs reprises cet été, a fait des tweets nombreux sur, on va dire, les angles choisis par les journalistes politiques du quotidien de référence.
Je les ai vus aussi, voilà. Ces tweets.
Moi, je vais essayer d'expliquer quelque chose pour, en termes de pédagogie, pour aussi de comprendre comment fonctionne un journaliste politique lambda aujourd'hui. Ils sont dans un suivisme par rapport aux entourages et aux éléments de langage des entourages, plutôt que d'avoir une analyse propre à eux, principalement pour deux raisons. D'un côté, on en parlait tout à l'heure, parce que les nouvelles générations de politiques, et là tu parlais de stade, enfin, la nouvelle génération de journalistes politiques, ont des parcours plus sommaires par rapport à la chose politique. C'est-à-dire qu'il y a 30-40 ans, il y avait encore des journalistes politiques qui étaient issus de la sphère politique, c'est-à-dire qui avaient pu militer quand ils étaient plus jeunes, à droite comme à gauche, qui avaient pu avoir une expérience politique d'une manière ou d'une autre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui dans les rédactions. La plupart des collègues sont issus des écoles de journalisme, n'ont pas forcément un parcours, on va dire, de proximité personnelle avec le militantisme politique tel qu'il est. Et par ailleurs, il y a un abaissement de la culture politique et institutionnelle du personnel des rédactions, des personnels qui sont chargés du traitement politique dans les rédactions. Ça passe par, là aussi, tout bonnement par l'âge, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément connu les anciennes batailles politiques ou les anciennes crises institutionnelles de la Ve République. Et donc, ils sont, on va dire, plus enclins à suivre les éléments de langage bêta des bébêtes, des entourages, des communicants, parce qu'ils sont dans une incapacité analytique à qualifier justement les faits politiques. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième point, pourquoi ils sont dans cette dépendance à l'égard des entourages et des petits offs, comme on dit ? C'est en réalité les offs, c'est une excuse en réalité de la part des journalistes, qu'ils soient grands éditorialistes politiques sur les chaînes d'information continue ou même petits rubricards. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils ont une faiblesse, c'est qu'il leur manque des sources en réalité, et notamment une transversalité des sources. Et donc, ils s'accrochent aux entourages respectifs, notamment aux conseillers en communication des différents responsables politiques, pour essayer de donner du sens à une réalité politique. Alors là, je globalise aussi, parce que bien évidemment, il y a des rubricards qui ont un carnet d'adresses, qui continuent à avoir des liens avec différents contacts dans différents partis politiques, mais cette dépendance à l'égard des entourages, notamment dans la Macronie, est très prégnante. Pourquoi ? Parce que depuis 2017... Sylvain l'a rappelé, il y a une déstructuration totale du système politique français. Alors, dont Macron est à la fois l'acteur et le bénéficiaire. Donc, écrasement des partis politiques traditionnels, de droite comme de gauche, effacement en réalité de tous les contre-pouvoirs qu'il y avait encore un peu dans la Ve République, notamment la fameuse alternance droite-gauche. Le fait qu'on se retrouve à un consensus idéologique autour d'une sorte de parti unique de la Macronie a affecté énormément le traitement des médias dans le suivi de la Macronie. Parce que finalement, il y a eu très peu de voix critiques, ou en tout cas tout simplement ayant un autre son de cloche que le suivisme général, parce que par cet effet de l'écrasement des contre-pouvoirs anciens dans le cadre de la Ve République, c'est-à-dire l'effacement de l'alternance politique, l'effacement des écuries politiques différentes, le fait que tout ça se fasse dans une sorte de cour de récréation dans la Macronie, hein, on le voit, hein, parfois violente d'ailleurs, mais les journalistes qui étaient déjà dans une... Le journaliste politique dans une conception très petite course de chevaux de la politique que tu décrivais, ont encore moins décrit les luttes de pouvoir et les jeux de pouvoir. Et quand je te parle également, quand je vous parle d'absence d'une multiplication des sources, c'est également concernant, là si je reviens sur les journalistes politiques, concernant leur difficulté à avoir des sources au sein de l'État, au sein des milieux économiques, c'est-à-dire d'avoir une transversalité des sources. Alors ça, c'est très important. Je vous donne pour finir mon propos, je vous donne un exemple. Pourquoi j'ai fait le premier livre, entre guillemets, sur Emmanuel Macron en 2015, avant tous les journalistes politiques de la place? Pourquoi, dans ce livre, j'ai expliqué que Emmanuel Macron allait candidater à la présidentielle de 2017 dans le dos, entre guillemets, de François Hollande et de Manuel Valls?
Quand il était ministre de l'économie.
Quand il était ministre de l'économie. Parce que j'avais des sources transversales comme enquêteur dans les milieux économiques. J'avais enquêté sur le parcours économique et personnel d'Emmanuel Macron, notamment autour de la banque Rothschild, mais également à la commission Attali. Et c'est ces interlocuteurs-là, c'est ces contacts-là qui m'ont dit qu'il allait partir à la présidentielle contre Hollande et Valls dans le jeu de concurrence autour du Parti socialiste. Mes confrères rubricards ou commentateurs politiques habitués au système politique traditionnel, eux, globalement, ils étaient ambiancés par l'entourage de Manuel Valls ou l'entourage de François Hollande, parfois pour des raisons organiques. Par exemple, tu parlais du Monde. Je me souviens très bien que les journalistes du Monde, comme ils ont plusieurs journalistes politiques, bien évidemment, ils ont des moyens, il y avait les journalistes politiques qui suivaient Manuel Valls à Matignon et les journalistes politiques qui suivaient François Hollande à l'Élysée. Et chaque journaliste politique, bon an mal an, relayait les éléments de langage des différents entourages. Et à l'époque, c'était des éléments de langage qui expliquaient pas du tout qu'Emmanuel Macron était en train d'aller à la présidentielle, bien évidemment. Les entourages n'avaient pas intérêt à introniser Emmanuel Macron dans le jeu de pouvoir qui était en train de se faire devant nos yeux. Et les journalistes politiques traditionnels étaient en retard. Ça, c'est par rapport au jeu politique, on va dire à la tambouille, à la politique politicienne, comme on dit. Mais ça a des conséquences directes, y compris par la suite, pour décrire les jeux de pouvoir dans la Macronie, qui ne sont pas tous liés aux jeux politiques traditionnels qu'on pouvait connaître dans des partis politiques, où il y avait encore des espaces de controverses politiques, on va dire, démocratiques, que ce soit au Parti socialiste ou à l'UMP. Aujourd'hui, il y a une partie des enjeux de pouvoir de la Macronie qui se trouve du côté d'Alexis Kohler, un technocrate à l'Élysée qui a le pouvoir depuis 7 ans, ou même du côté de la première dame Brigitte Macron, qui a un véritable poids politique au sein de l'Élysée, mais que quasiment aucun journaliste politique traditionnel décrit comme tel, même si ça commence un peu à évoluer depuis ces derniers mois, et sans parler de certains dysfonctionnements plus institutionnels encore, quand on voit que certaines grandes puissances, je veux parler par exemple de certaines grandes puissances économiques comme Bernard Arnault, peut très bien continuer à essayer d'influencer le pouvoir actuel à l'Élysée, tant auprès d'Emmanuel Macron que de Brigitte Macron.
Alors là, tu analyses effectivement la structure politique et l'évolution de la structure politique versus la manière de faire du journalisme politique par les rubricards, mais quid aussi des propriétaires, des grands médias, de cette autre structure qui façonne les médias non indépendants, si on peut les appeler ainsi. C'est quoi aussi la responsabilité de cette structure-là vis-à-vis de la situation politique actuelle?
Alors, je vais être très clair. Je suis le premier ou l'un des premiers critiques de la concentration des médias dans ce pays. Je pense que c'est une très mauvaise chose au plan démocratique. Je pense qu'on a besoin de lois anti-concentration très fortes. Voilà, ça c'est dit. Maintenant que c'est dit, je pense que ce serait vraiment ne rien vouloir comprendre au journalisme politique que d'imputer sa défaillance au fait de savoir qui est propriétaire du journal. Ça ne marche pas comme ça. Vous n'avez pas de propriétaire de journaux qui donne des ordres. je pense qu'il y a deux écueils à éviter si on veut se donner un peu quelques chances de décoder, de comprendre les logiques à l'œuvre du journalisme politique et les effets qu'elles produisent. Il faut se garder d'imputer ça à la question de la propriété des médias d'une part, et il faut se garder d'imputer ça d'autre part à la question d'un agenda politique fantasmé qu'auraient les journalistes politiques, qui seraient tous d'accord entre eux, qui seraient tous macronistes ou je sais pas quoi. En fait, ça j'ai essayé de le montrer dans l'article que tu as cité, que j'ai publié au mois de juin, à propos de la question du Rassemblement National. Parce que sinon, on ne comprendrait pas pourquoi des journalistes qui sont sincèrement contre le Rassemblement National le serviraient de cette façon depuis si longtemps. S'ils le servent, c'est bien malgré eux, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte à quel point leur pratique journalistique favorise le Rassemblement National. Leur objectif, ce n'est pas de le faire. Il se trouve qu'ils le font et ils ne s'en rendent pas compte. Donc je pense que si on veut comprendre les effets du journalisme politique, il faut se passer de ces explications mécaniques, simplistes, de la propriété des médias ou de l'agenda politique des journalistes. Ce qu'il faut essayer de mettre à jour, et Marc vient de le faire à propos, par exemple, de la manière dont on va cadrer ou définir ce qu'est le politique ou la politique, ne pas en avoir une définition trop étroite pour pouvoir avoir des interlocuteurs qui sont dans d'autres sphères d'activité, parce que sinon on ne comprend rien en fait à certaines logiques sociales. Or, le journalisme politique est organisé en rubricards, comme ça vient d'être rappelé, ce qui est une manière de s'empêcher d'avoir la bonne focale, par exemple. Mais il y a des tas et des tas dans cet article, je listais un certain nombre des biais, j'aurais pu allonger la liste, il y a beaucoup de biais. Bon. Maintenant, des situations comme celles qu'on traverse en ce moment permettent, plus que d'autres, de saisir ce qui ne va pas, de saisir ces biais. Alors, je l'ai fait cet été beaucoup à propos du Monde, c'est vrai. Si je le fais à propos du Monde, ce n'est pas que le Monde est plus mauvais que les autres, c'est juste que moi, je lis davantage le Monde que les autres journaux, en fait. Et je pourrais faire le même travail, je pense, sur les autres journaux, en prenant le temps de les lire davantage. Pour moi, Le Monde demeure l'un des grands journaux français. Et c'est pas Le Monde que je cloue au pilori en tant que journal. C'est un journal dans lequel j'apprends énormément de choses. C'est un journal qui publie des articles formidables aussi. Donc je lis Le Monde, je lis Libération, je lis Mediapart en France. Voilà, et puis je lis d'autres journaux étrangers. Mais je m'en prends au Monde parce que, d'une certaine façon, je suis plus exigeant encore à l'endroit du Monde, tout simplement parce que c'est un journal qui a plus de moyens que Mediapart, plus de moyens, et donc plus de moyens que Libération. Il a plus de journalistes. Il devrait, du coup, être en meilleure position pour couvrir ce qui se passe. Or, le problème, et ce qui me fascine quand même, c'est à quel point, y compris dans un grand journal comme celui-là, les journalistes politiques... Non pas du fait de leur propriétaire, non pas parce qu'ils seraient macronistes ou contre la gauche, mais parce qu'ils ont des habitudes de travail, reprennent à leur compte, et ça a été très bien dit par Marc Endeveld, les éléments de langage. Ils participent du storytelling, exactement comme je viens de vous le dire à propos de cette annonce sur la fête du sport. C'est-à-dire que ça vaut pour tout. C'est-à-dire qu'un responsable politique dit quelque chose, mais mieux que ça. Il va confier aux journalistes ce pourquoi il dit cette chose à ce moment-là. Et c'est ce double niveau, voire triple, voire quadruple, qui va être repris par un journaliste qui aura l'impression d'être intelligent parce qu'il partagera avec ses lecteurs ce qui n'est que la perception stratégique d'un des acteurs qui devrait, au contraire, essayer de mettre en perspective avec d'autres acteurs politiques, ce qui n'est pas fait. Dernier point... Oui. Sur ce que Marc Endeveld disait de façon très juste sur la manière dont la Ve République déliquescente qui a rendu possible le macronisme et qui a macronisme qui a lui-même encore aggravé cette déliquescence de la Ve République, comment la remise en question notamment du clivage droite-gauche et la défiance à l'endroit des organisations politiques qui sont pourtant des lieux absolument fondamentaux pour organiser le débat démocratique a brouillé beaucoup de repères et a déstabilisé le journalisme politique. Au fond, je me suis souvent demandé pourquoi, par exemple, mais j'imagine que vous vous êtes aussi fait la réflexion, on avait à ce point l'occasion d'entendre sur les ondes des anciens présidents de la République, des anciens ministres. Il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça. Dans les autres pays, quand les gens ont perdu une élection, ben, ils font autre chose dans la vie. Alors vous allez me dire, il y a Trump qui est un peu un contre-exemple, mais d'habitude, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans tous les autres pays, on tourne la page. En France, on a bien vu Valéry Giscard d'Estaing, pour remonter très loin, mais Nicolas Sarkozy, François Hollande. Enfin, je veux dire, c'est... Mais pourquoi le journalisme se prête à ça ? Parce que le journalisme politique est entré en congruence avec une manière de faire de la politique qui est celle d'un Emmanuel Macron, mais qui était aussi celle d'un Nicolas Sarkozy, qui est une manière de DRH de faire de la politique, qui est une manière de débauchage, qui est une manière de réfléchir avec la notoriété. Et c'est tout ça aussi très congruent avec les cotes de popularité des sondages. C'est-à-dire que on n'est pas respectueux des collectifs. On l'a bien vu avec ce qui est arrivé au traitement, enfin, avec le traitement médiatique du choix par le Nouveau Front Populaire de Lucie Castet cet été. Lucie Castet a été choisie par une coalition de partis politiques. Dans n'importe quel espace public démocratique, on doit respecter ce choix, qu'on soit d'accord ou pas. Or, vous avez vu comment les médias ont participé du storytelling qui consiste à dire que, en fait, le candidat de gauche le plus souhaitable, c'est Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve qui a quitté le Parti Socialiste, qui n'a pas peut-être un député à l'Assemblée nationale. Que représente-t-il ? Rien, si ce n'est cette notoriété médiatique. C'est un bon client, c'est un personnage pour les journalistes politiques qui en font, qui racontent des histoires et qui les peuplent de Bernard Cazeneuve. On pourrait, dans une certaine mesure, dire la même chose de Raphaël Glucksmann et de son micro-parti Place Publique, qui ne pèse pas bien lourd à côté des quatre autres partis qui ont constitué le Nouveau Front Populaire. Donc il y a là une manière de dévoyer la politique traditionnelle, celle qui se fait avec les partis, et qui, normalement, doit être davantage transparente, qui est inquiétante, d'autant plus qu'on est dans une situation d'incertitude aujourd'hui. Je pense que, pour répondre brièvement et pour redire à quel point, je crois que trop souvent on est égaré par des explications simplistes de ces dérives et qui nous font ne pas voir en fait où est le problème.
Alors, la transition est parfaite puisque tu as évoqué le traitement médiatique à l'égard de Lucie Castet et du Nouveau Front Populaire. Quel rôle justement joue la question de la diabolisation de la gauche dans cette manière de faire du journalisme politique, Marc Endeveld?
Moi, j'emploierais un terme même presque plus fort par rapport à la gauche. Il y a une stratégie discursive, entre autres, de criminalisation de la gauche à tout niveau, et venant notamment des intérêts, on va dire, autour d'Emmanuel Macron. Et ce qui est assez sidérant par rapport également à la question des abus de pouvoir, c'est que une bonne partie des commentateurs politiques embraye sur ces explications-là, sans aucune distance. Bon, alors après, pour revenir sur une autre question qu'on a abordée juste avant, c'est-à-dire la propriété des médias. Ce que je disais au tout début, c'est que effectivement,
vraiment rapidement là-dessus, oui, parce que j'aimerais qu'on puisse vraiment avancer sur la diabolisation,
sur la surprudence des rédactions politiques, enfin, des journalistes politiques à l'égard de la Macronie. Et surprudence, je suis sur un terme gentil.
Prudent.
Oui. C'est que, tel que je l'ai vécu, c'est d'abord lié à ce que j'expliquais tout à l'heure, à la question institutionnelle et politique et à la neutralisation idéologique tant structurelle au sein de la Ve République. Le fait que finalement, une bonne partie des forces dites républicaines, enfin, telles qu'elles se définissent, se sont mises depuis 2017 derrière la casaque d'Emmanuel Macron. Pour autant, je constate une oligarchisation de la vie publique, ce que je disais sur Bernard Arnault, et des médias. Et que, bien évidemment, que des stratégies de propriété des médias, telles que par exemple la famille Saadé, qui investit les médias clairement sur demande de l'Élysée, ou des stratégies encore plus idéologiques, comme Vincent Bolloré, qui souhaite dans une stratégie d'hégémonie culturelle, portait des idées réactionnaires et d'extrême droite sur l'ensemble de ses antennes, bien évidemment qu'on est dans une autre forme de journalisme, on n'est pas dans une institution comme Le Monde, avec des contre-pouvoirs, une tradition de journalisme et des hiérarchies journalistiques qui peuvent faire parfois contrepoids aux actionnaires. Là, on est quand même sur des médias avec des courroies de transmission entre propriétaires et direction de médias, des courroies beaucoup plus fluides.
Donc ça fait partie de l'équation.
Pour moi, ça fait entièrement partie de l'équation, quand même. Je suis d'accord.
Dans ces médias-là, je suis bien d'accord.
Je suis d'accord.
On ne peut pas dire que le JDD fonctionne, enfin que le monde fonctionne comme le JDD.
Je suis d'accord qu'il ne faut pas être dans une grille de lecture mécaniste, comme tu le disais. Et justement, c'est pour ça que je disais que derrière la neutralisation quasiment des médias depuis 2017, je pense que c'était plus des raisons institutionnelles, structurelles et proprement politiques qui amenaient à cette neutralisation. À cette sidération, on va dire, notamment au sein des services politiques. Mais on voit bien que la propriété des médias, et sur les médias que j'ai cités, mais même, moi j'ai des exemples, on peut parler d'un journal de référence comme Les Échos, on va dire, un journal économique comme Les Échos. Je le sais de la bouche d'entourage de Bernard Arnault que, bien évidemment, des consignes sont passées parfois. Alors pas aux journalistes rubricards, justement, qui croient bien faire son travail, et ça c'est normal, mais au niveau des hiérarchies. Il y a quand même parfois ça se fait d'une manière très discrète, mais en réalité, il y a quand même des liens, y compris dans le choix des dirigeants de rédaction. Ça se fait également sur l'accord des propriétaires de médias. Ça, dernier point, et après je vais revenir à
ce que tu appelles la criminalisation de la gauche.
Oui, alors, là, on va dire qu'on est dans une logique d'éditorialisation, mais qui va dans un seul sens. Alors pourquoi ça va dans un seul sens? Parce que, de mon point de vue, on l'a évoqué, crise du journalisme politique, mais faiblesse et rareté des médias proches de la gauche aussi, et surtout l'arc médiatique, on va dire. Donc ça provoque un effet d'hégémonie culturelle contre, globalement, la gauche. Mais ça a aussi une raison, il y a une raison derrière tout ça, c'est aussi, de mon point de vue, je parlais tout à l'heure des jeunes générations de journalistes politiques qui n'avaient plus d'expérience politique dans leur parcours. C'est également que tu citais Libération, Le Monde. On est quand même sur une technicisation du métier du journalisme politique, alors que des médias comme le JDD ou certaines chaînes d'information continue, je pense par exemple au parcours de Louis de Raguenel, par exemple, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Louis de Raguenel qui est chef du service politique d'Europe 1 et qui intervient souvent sur CNews. Bon, Louis de Raguenel, il était l'ancien conseiller numérique de Claude Guéant quand Claude Guéant était ministre de l'Intérieur. Donc de Raguenel, il a eu un parcours politique avant d'être journaliste politique. Il a la compétence politique, il a l'expérience de la violence politique, voire même de la propagande politique. Il sait, il a même son carnet d'adresses dans la Sarkozy. Et il est aujourd'hui chef du service politique d'Europe 1. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, à l'inverse, dans pas mal de médias plutôt teintés de gauche, on est sur des parcours de jeunes générations sans expérience politique. Mais ça, c'est lié à plein d'aspects, mais également à des questions de, de succession générationnelle, de qui tient la ligne éditoriale d'un média, qui a le pouvoir dans une rédaction. Et voilà. Et du côté des médias de droite, voire réactionnaire, voire d'extrême droite, quand le propriétaire de Valeurs Actuelles décide de nommer à peine 30 ans Geoffroy Lejeune, patron de la rédaction de Valeurs Actuelles, et que maintenant, à peine une quarantaine d'années, il est le patron du JDD, voilà, on ne voit pas ça forcément dans tout le spectre du journalisme, et notamment plutôt dans les médias de gauche.
Je partage entièrement ce que Marc vient de dire. Il y aurait beaucoup à dire sur les transformations de la profession journalistique, de la formation des journalistes. Quelque chose qui est à l'œuvre depuis très longtemps. Hein. À mon sens, c'est à partir du début des années 80 que les choses ont commencé à vraiment basculer de ce point de vue-là. Mais pour répondre à la question sur la gauche, Emmanuel Macron a objectivement bénéficier d'une couverture médiatique par principe bonne pour une raison rhétorico-géométrique. Je m'explique. Les journalistes ont, ils n'ont pas toujours d'idéologie politique, mais ils ont une idéologie professionnelle, c'est-à-dire une culture professionnelle, ce qu'on leur apprend dans ces écoles de journalisme qui les standardisent. Ils apprennent en particulier à fabriquer ce qu'ils appellent de l'objectivité en frottant l'une contre l'autre deux opinions antagonistes, comme deux silex. Hop, jaillit le feu de l'objectivité. Ça, c'est le travail de base des journalistes. Ils le font plus ou moins de manière plus ou moins sophistiquée, plus ou moins basique. C'est souvent assez préhistorique. Hein. C'est pour ça que je parle des silex. Et donc, ça repose sur l'idée que le bon, le juste, le vrai, ce serait au milieu, comme aurait dit François Bayrou autrefois, mais comme n'a cessé de dire Emmanuel Macron depuis le début, qu'il est et de droite et de gauche, en essayant toujours d'être dans cette position qui va, même très inconsciemment, par qui veut la saisir, apparaître comme la bonne position, celle de l'arbitre. Or, ce discours-là l'a fait bénéficier d'un traitement favorable par les médias, parce que Emmanuel Macron, par contraste, est toujours apparu comme celui qui n'était ni de droite ni de gauche, et a fortiori ni d'extrême droite ni d'extrême gauche. Et là, j'en viens à une stratégie qu'Emmanuel Macron a développée tardivement, à partir de quelques mois avant la séquence que nous traversons, qui a consisté pour lui à faire de la France insoumise l'équivalent géométrique du Rassemblement national dans le paysage politique. Et ce tour de passe-passe, qui est le même, qu'il fait depuis toujours, mais qu'il a pour cette fois appliqué à la gauche, a été évidemment un moyen de torpiller ce qu'il n'avait pas vu venir, c'est-à-dire la capacité de la gauche à se reconstruire après la destruction qu'elle a subie du fait d'Emmanuel Macron en 2017. Il avait sous-estimé la capacité de la gauche à créer le nouveau Front populaire. Je me rappelle, avant le premier tour des élections législatives, j'étais invité sur des plateaux de télévision avec des éditorialistes et je n'écartais pas la possibilité personnellement que le nouveau Front populaire arrive en tête de ces élections. Et tous les autres autour de moi me regardaient comme un martien. On sait ce qu'il est advenu des résultats. Ça faisait partie du storytelling que de considérer que c'était pas possible, que en fait le seul enjeu c'était de barrer la route, ce qui était un enjeu considérable, au Rassemblement national. Ben, de fait, le NFP est arrivé comme le bloc en tête. En fait, cette manière qu'a eu Emmanuel Macron et qui a été reprise par les médias pour les raisons que je dis, c'est-à-dire que je n'écarte pas le fait qu'il y a probablement dans les services politiques des journaux, y compris de gauche, des gens qui n'aiment pas la France insoumise. À la limite, j'en fais partie. Je ne suis pas particulièrement... j'ai beaucoup de critiques à faire à Jean-Luc Mélenchon. Mais comme journaliste, ce n'est pas la question. Dès lors que ce parti fait partie d'une alliance, le Nouveau Front Populaire, je ne vais pas... Il est complètement irresponsable et complètement malhonnête de faire de la France insoumise l'équivalent fonctionnel du Rassemblement national, en dépit de tous les désaccords que j'ai personnellement avec ce parti. D'ailleurs, le grand journal britannique The Guardian, qui était cité tout à l'heure, dans son éditorial, a relevé cet élément et a imputé la faute à Emmanuel Macron d'avoir fait croire à beaucoup d'électeurs français qu'on avait le même type de problème avec la France insoumise qu'avec le Rassemblement national. Et n'oublions pas que c'est sur cet argument-là qu'il s'est appuyé pour refuser de nommer Lucie Castet à Matignon. Et donc, moi, je fais le pari que ce n'est pas parce que ces journalistes ont un agenda politique, idéologique, qu'ils acceptent de raconter ce genre de conneries. C'est tout simplement parce que c'est congruent avec leur manière de produire de l'objectivité.
Et sur la question de... Puisque tu évoquais le Rassemblement national, comment expliquer aussi que, justement, cette convergence de la Macronie que nous, à Arrêt sur Image, on documente depuis un certain nombre d'années, y compris idéologique, vis-à-vis de l'extrême droite, a du mal à exister médiatiquement, alors même qu'il n'y a jamais eu autant de normalisation du Rassemblement national. Il y a une forme de paradoxe, quelque part. Comment l'expliquer ?
J'ai pas tout compris.
Comment expliquer que cette convergence entre la Macronie et l'extrême droite,
oui,
qui est sous nos yeux aujourd'hui, mm-hmm. mais que toi d'ailleurs tu racontes depuis un certain nombre d'années,
oui.
parfois sous les yeux éberlués d'un certain nombre de personnes, comment expliquer que celle-ci ait du mal à exister médiatiquement alors même qu'on n'a jamais autant normalisé le Rassemblement national ?
Auprès des commentateurs politiques ?
Auprès, bien sûr. Ouais.
Bah parce qu'une partie des commentateurs politiques est en fait, de mon point de vue, là, je parle des commentateurs politiques, je parle forcément des journalistes politiques, mais on le voit sur les éditorialistes, les éditocrates, les communicants qui passent sur les chaînes d'information continue. Bon, globalement, en fait, ils sont là pour le coup, je parlais d'idéologie, en fait, là pour le coup, ils sont d'accord avec cette stratégie, et cette stratégie d'union des droites. Parce que ce qu'a fait Emmanuel Macron déjà depuis plusieurs mois, c'est en réalité, c'est d'appliquer le rêve d'un Patrick Buisson, qu'avait conseillé Nicolas Sarkozy entre 2010 et 2012. On se souvient de la création du ministère de l'immigration, mais le rêve de Patrick Buisson, c'était le rêve de l'union des droites, c'est-à-dire l'union des droites gaullistes, anciennement gaullistes et pétainistes, pour aller vite. Et Emmanuel Macron, d'une certaine manière, il a cassé le front républicain de lui-même. Je rappelle qu'en juin dernier, la personne au sein de la Macronie qui met en avant la question du front républicain, c'est pas Emmanuel Macron, c'est Gabriel Attal. Mais ça, je pourrais parler en détail de pourquoi, du comment Gabriel Attal, d'une manière totalement instrumentale, met en avant le Front républicain par rapport à Emmanuel Macron, qui est en réalité dans le nini, et donc dans le refus, en fait, intrinsèque du Front républicain. Déjà parce que Emmanuel Macron, sa stratégie que j'ai décrite dans des articles et des enquêtes, y compris en juin dernier, finalement, c'est qu'ils étaient dans une prophétie autoréalisatrice par rapport à l'extrême droite. Ils n'auraient pas été mécontents que Bardella récupère Matignon. Et d'ailleurs, la folie médiatico-politique, on l'a vu, on a été mortifié pour des gens de sensibilité de gauche. On l'a vu qu'au mois de juin, on va dire, toute une partie de la machine quasiment était dans la prophétie autoréalisatrice de le Rassemblement national sera à Matignon. À tel point que dans des journaux, on attendait à faire des dossiers sur cette perspective-là, parce que tous les acteurs journalistes avaient intégré le fait que... avaient intégré, pour reprendre le terme macroniste par excellence, parce que le président de la République adore dire ça, qu'il est dans un rapport tragique à l'histoire, ça il adore, eh bien, ils attendaient, voire pour certains, ils le voulaient, que ça advienne, en fait. Donc il y a quand même cette logique-là. Ils vont pas décrire une évidence, en gros, c'est-à-dire l'union des droites, comme là le soutien sans participation du Rassemblement national à l'égard de Michel Barnier. Bon, soutien sans participation, finalement, qui le dit dans les médias ? C'est François Hollande qui est interviewé par France Inter. Voilà, donc après 5 ans de Hollande au président de la République, bon, bah, François Hollande revient dans le jeu politique par le nouveau Front populaire en étant candidat puis maintenant député, et François Hollande le dit. Mais même François Hollande, ancien président de la République, qui le dit, face aux commentateurs politiques, les commentateurs politiques sont plutôt très distants avec cette parole d'un ancien président de la République. Comment on peut oser dire qu'il y a un soutien sans participation du Rassemblement national au gouvernement Barnier et à M. Barnier ? De même, par rapport à l'abus de pouvoir concernant la Constitution, sur le fait que finalement, c'est Emmanuel Macron qui est en train de faire le casting du gouvernement et donc de choisir et de co-choisir, y compris les ministres, ça c'est pareil, ça ne crée aucun lecture critique, même de constat. Tu parlais de qualifier les faits, et donc on est quand même dans une logique presque de novlangue et de réalité parallèle. Et ça, je reviens quand même sur un terrain qui a été préparé en amont. Je parlais des communicants tout à l'heure. Il y a un signe caractéristique de la Macronie qui a été très peu décrit, y compris par des commentateurs critiques à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est la capacité de la Macronie à mentir dans l'espace public et à utiliser les fake news et à tordre le récit politique et les faits politiques. Et ça, ils le font depuis très longtemps, depuis 2017, si tu veux. Y compris, d'une certaine manière, pendant la campagne présidentielle de Macron en 2017, où il disait tout et son contraire en fonction de son public. C'est un rapport manipulatoire à la parole politique, et parce que c'est quelque chose qui est théorisé du côté d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en 2017, il l'a dit, hein, il l'a confié à un documentariste, il a expliqué, aujourd'hui, en fait, le discours politique, c'est pas l'enjeu, il suffit de saturer l'image en politique. Est gagnant celui qui sature l'image. Et donc, on est quand même dans un rapport au discours politique et au débat politique qui est, bon, allez, si je suis gentil, qui est dysfonctionnel, mais qui est en réalité très, très manipulatoire et peu respectueux à l'égard du débat démocratique. Voilà. Et ça, l'exemple est donné par le haut, c'est-à-dire par Emmanuel Macron. Et c'est quelque chose qu'a ensuite, par capillarité, a envahi tout l'espace public, parce que, par une sorte de mimétisme des troupes du côté de la Macronie, le nombre de représentants de la Macronie ou de députés macroniens qui ont utilisé des fake news, alors, à leur décharge, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aujourd'hui dans l'ensemble de l'arc politique, d'ailleurs, je trouve, c'est-à-dire un rapport aux faits et à la vérité qui est parfois aléatoire, mais dans le cadre de la Macronie, c'est quelque chose qui a été industrialisé.
Avant de vous donner la parole, dernière question, Sylvain Beaumont. On a beaucoup abordé la question du journalisme politique. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué ces derniers mois, c'est la sortie d'un livre de Rachid Lerèche qui étriait le journalisme politique version d'aujourd'hui. Je me demande, parce qu'en écoutant et en entendant un certain nombre de confrères assez critiques sur sa manière à lui de voir les choses, puisque voilà, il part en bille en tête quand même contre les bruits rubricards, on se dit que on a du mal à voir une forme d'espoir sur un changement de comportement de la part des journalistes politiques dans ce pays.
Oui, c'est vrai qu'à bien des égards, Rachid Lerèche est quelqu'un qui... c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Il y a sûrement des tas de raisons à ça, notamment dans son parcours. Moi, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il démarrait tout juste le journaliste après être entré à Libération au Standard, en fait, et qui a fait une école, mais qui a appris beaucoup sur le tas, qui n'a pas du tout la même trajectoire que la plupart des journalistes politiques, qui a eu cette expérience un peu longue de journalisme politique et qui en a fait un très beau livre que je vous conseille, Aux Arènes, sorti l'année dernière, parce que c'est quelqu'un qui fait preuve justement de cette réflexivité qui fait tant défaut à ses collègues. Et on peut être que frappé par les réactions corporatistes de ses collègues qui cherchent à protéger leur manière de faire et qui ne veulent pas entendre, pour la plupart d'entre eux, ce que dit Rachid, qui n'est pas violent, qui n'est pas... C'est juste lucide, en fait, et c'est très appuyé sur des faits, sur des expériences. Donc, tout n'est pas perdu tant qu'il y a des journalistes politiques. Maintenant, il fait autre chose que du journalisme politique. Il fait du journalisme de société, plutôt. Mais en fait, l'important, c'est que tous les gens qui ont envie de faire du journalisme aujourd'hui devraient commencer par lire ce livre. Je suis pas sûr qu'ils auraient... Et s'ils continuent à avoir envie d'en faire... il faut qu'ils gardent vraiment dans un coin de leur tête ce livre. C'est une occasion pour moi de dire que la critique que je fais des médias, toujours, elle est, comme on dit dans le pragmatisme américain, mélioriste. Elle vise à améliorer les choses. C'est pas une critique qui vise à détruire le journalisme. C'est tout le contraire, en fait.
Un peu comme Arrêt sur Image.
Ben oui, mais c'est très important d'être constructif.
Merci beaucoup. Des questions ? N'hésitez pas, il nous reste quelques minutes avant la fin du débat. 6 minutes très précisément. Je vois que la main s'est levée là-bas. Est-ce qu'il y a un micro ici ? Est-ce qu'il y a un micro qui circule dans la salle ou est-ce que c'est à moi de me déplacer ? Je veux bien le faire, hein, sans problème. Eh bien, je le fais.
Bonjour, merci beaucoup pour ce débat très intéressant. Au tout début, on vous a posé une question par rapport au traitement médiatique et on vous a demandé s'il y avait une rupture aujourd'hui sur le traitement médiatique et vous avez répondu que, à votre sens, non. Or, le traitement des infos en continu est, pour moi, il me semble nouveau. Et là, je crois qu'il y a un traitement différent du journalisme qui se faisait avant. Est-ce que vous pourriez commenter sur ce désaccord, s'il vous plaît ?
Non, alors je précise, je répondais à la question de savoir si la séquence qui s'est ouverte cet été avait entraîné une manière de faire différente du journalisme politique. Là, vous faites référence à une autre temporalité, beaucoup plus large, qui est celle de liée à l'apparition des chaînes d'information en continu. C'est une vaste question. C'est sûr que ça a transformé beaucoup de choses, mais il faut toujours remettre dans des perspectives historiques plus longues. C'est-à-dire que on a eu tendance à l'oublier. Avant les chaînes d'information en continu, il y a eu une radio d'information en continu, France Info, c'est 1986. Donc c'était avant Internet. Il y a, vous savez, au 19e siècle, alors que c'était compliqué de fabriquer des journaux avec du plomb, qu'on les livrait avec des charrettes à chevaux, le plus grand journal à l'époque de France, qui s'appelait Le Petit Parisien, avait 13 éditions dans la journée. Donc l'info continue, elle existait au tout début de l'information de masse commerciale telle qu'elle s'est inventée à partir des années 1830. Donc voilà, ce qui me semble plus pertinent aujourd'hui peut-être aussi, c'est de voir, je reprends l'expression à un sociologue du numérique qui s'appelle Dominique Boulier, de percevoir Twitter, X, comme l'horloge atomique de la vie politique en fait. C'est vraiment un endroit extraordinairement important parce que c'est là que les déclarations souvent sont publiées pour la première fois, en tous les cas qu'elles circulent massivement. C'est, donc ça n'a plus rien à voir avec un fonctionnement d'agence comme on avait autrefois, puisque ça touche tous les citoyens qui veulent être informés en même temps que les acteurs politiques eux-mêmes. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger ça. Voilà. Mais en fait, c'est un monde en perpétuelle transformation, notamment du fait de cette mutation numérique et des logiques, on n'a pas le temps d'entrer là-dedans, mais elles sont considérables, des nouveaux modèles économiques qui ont vu le jour à la faveur de cette mutation numérique et qui reposent sur le clic, donc sur le buzz, donc sur le clash. Et toutes ces logiques ont encouragé l'idée de fabriquer de l'objectivité avec des opinions antagonistes dont je parlais tout à l'heure, en fait.
Oui, au tout début du débat, vous expliquez de façon tout à fait intéressante combien les jeunes journalistes aujourd'hui n'ont pas le même parcours que des journalistes il y a 30-40 ans. Moi, ça m'a rassuré à mon grand âge, parce qu'effectivement, je trouve que souvent, ils font preuve de peu de culture politique ou de peu de culture tout court. Hein. Je crois que c'était un trait de vieillesse, mais ça me rassure que vous le disiez. Mais derrière, vous expliquez ça par leur formation, par leur parcours. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un des résultats de l'évolution de la politique dans la société, l'affaiblissement considérable de toutes les organisations politiques, syndicales, ou leur transformation, c'est peut-être un... Mais en tout cas, il y a un choc là-dessus, et les journalistes, bah, ils sont aussi le produit de ça, non ?
Oui, justement, c'est pour ça que je faisais la distinction entre ce qui se passait, de mon point de vue, du côté des médias de droite ou d'extrême droite, et ce qui se passe plutôt du côté des médias de gauche, c'est-à-dire une technicisation de la vie publique plutôt à gauche finalement, et à droite et à extrême droite, des ponts qui sont faits davantage par rapport à des mouvements réactionnaires, je peux penser à la Manif pour tous par exemple ces dernières années, où le continuum entre médias et sphères politiques et militantes est en réalité plus assumé, en réalité. Alors qu'à gauche, par rapport à la crise des structurations, enfin, des structures politiques, militantes, syndicales, global, ça a un effet également, de mon point de vue, sur le rapport de médias qui sont plutôt de ce côté-là de l'arc.
Juste un petit mot pour compléter. Je pense que ça, c'est lié aussi à des... Pour expliquer la différence entre la gauche et la droite de ce point de vue-là, à des phases politiques différentes. Il se trouve que quand la gauche est arrivée au pouvoir en 1981, un certain nombre de gens à droite ont réfléchi et théorisé l'idée de la nécessaire bataille culturelle que la droite devait mener pour se reconstruire. Ça a été le Figaro Magazine en particulier, Philippe de Villiers avec le Puy du Fou, etc. Et ça a produit comme premier résultat politique pour la droite la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007. La gauche, elle, alors que la gauche culturelle, entre guillemets, avait pu gagner grâce à une bataille culturelle menée dans les années 60 et 70, et notamment par les maisons d'édition, des journaux, et elle avait à l'inverse à montrer, à donner des gages de respectabilité, de professionnalisme, de sérieux. Moi, j'ai commencé à faire du journalisme au début des années 1980 à Libération, et ce journal était à l'époque, dans sa nouvelle formule de 1981 précisément, obsédé par l'idée de recruter des journalistes sérieux, diplômés, qui était le contraire au fond de ceux qui avaient créé ce journal et qui avaient appris sur le tas par le militantisme politique pour la plupart d'entre eux. Et donc il y a une espèce de chiasme chronologique entre la gauche et la droite de ce point de vue-là. Et la gauche aujourd'hui est en train de se repolitiser culturellement, et je doute pas que ça donnera lieu à des victoires politiques plus tard. Mais ça prend du temps, c'est des cycles de 30 ans ou de 40 ans dont on parle là.
Eh bien, dernière question et après on en reste là.
Oui, en conclusion de votre intervention, vous avez dit finalement que le logiciel qui actuellement anime les journalistes pose problème. Du coup, quid des solutions ? Parce que là, vous avez énuméré les problèmes. Quelles solutions ? Quelle formation pour les journalistes, pour leur rendre indépendants du pouvoir et être capables d'être cette analyse critique qui est la base de leur travail ? Voilà. Est-ce que la formation en IFP est calibrée de la bonne façon pour permettre aux journalistes qui souhaitent être autonome et indépendant dans leur analyse, être capable de prendre ce recul nécessaire dont vous dites que c'est la clé de voûte de l'information dans les années à venir pour les journalistes politiques.
Voilà, bon, il nous faudrait 3 heures, hein, je pense, pour répondre à cette question, mais une réponse brève, Marc.
Alors, je vais essayer d'être bref. Sur la formation, je pense que dans les écoles de journalisme, il faut qu'il y ait davantage de formation sur qu'est-ce que le travail d'enquête et le rapport aux sources, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans l'enseignement du journalisme, justement, dans d'autres démocraties, mais beaucoup moins en France, de mon point de vue, et y compris sur du rubriquage politique tel qu'on l'a évoqué aujourd'hui. Ça, je pense que c'est un premier point. Deuxième point, je pense que dans les rédactions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, il y aurait nécessité à décloisonner les services, c'est-à-dire à travailler davantage en transversalité entre services économiques, politiques, d'enquête, plutôt... Alors je sais que c'est des choses qui commencent à se faire dans différents médias. On parlait du Monde, on parle de Mediapart. Ça commence à se faire, mais dans les logiques de pouvoir interne des rédactions, les jeux de pouvoir et les logiques, on va dire, de routine entre services sont un frein à changer les choses. Pour moi, ça, c'est un deuxième aspect des choses. Et j'avais une troisième idée, mais que j'ai oubliée, donc...
Juste une... c'est pas pour vous renvoyer la balle, mais je veux dire, ça concerne pas que les journalistes, ça concerne leurs lectrices et leurs lecteurs. Aujourd'hui, je disais, voilà, il y a des réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, ça consiste à les utiliser pour apostropher quand on comprend pas, comme lecteur, comme lectrice. Être critique entre journalistes, c'est d'habitude quelque chose qui se fait pas. C'est pour ça que quand je fais mes tweets, les gens... comprennent pas toujours. Et je pense que c'est par la critique qu'on améliore les choses. Et cette critique, on ne doit pas en avoir le monopole entre journalistes. C'est vraiment à vous de poser des questions. D'abord, de commencer par lire les journaux et de les soutenir. Ça, c'est vraiment la base. Mais pas de le soutenir passivement. Voilà. De prendre votre part dans le débat démocratique en interpellant le journalisme. Il ne peut que sortir meilleur de ça. Parce que quand on voit la quantité de trolls, et je réagirai là-dessus, sur les mensonges qui ont été évoqués du macronisme, le simple tweet que j'ai fait à propos de l'annonce de la fête du sport hier, je vous invite à regarder mes tweets et à regarder les dizaines et centaines de commentaires de trolls macronistes qui me répondent, les arguments qu'ils utilisent, le ton et la violence de leurs propos, tout simplement pour avoir rappelé les règles du jeu de la Constitution. Ça fait vraiment réfléchir. C'est vraiment, ils n'ont rien à envier aux trolls des autres partis populistes de ce pays.
Merci. Et si je... Merci à vous deux d'avoir accepté de participer à ce débat. Et si je peux me permettre, vous inviter aussi... Allez regarder, allez éventuellement, je l'espère, vous abonner à Arrêt sur Image. On a un stand juste à côté. Arrêt sur Image, vous le savez, c'est un site d'analyse critique des médias avec du contenu, des reportages, des enquêtes et une émission une fois par semaine pour reprendre le recul sur l'actualité et la manière dont on la raconte. Voilà, je vous invite à aller au moins regarder, mais surtout à vous abonner. Merci à vous et bonne fête de l'humain.